Les séminaires du Collège de France.
C'est un plaisir d'accueillir Daniel Suchet aujourd'hui ici. Daniel et moi nous connaissons depuis un certain temps, quand il était élève dans une grande école d'ingénieurs du plateau de Palaiseau. Et puis ensuite, il est venu faire un stage dans notre équipe dans les années 2010-2011, par là, à la fois un stage bibliographique et puis... Daniel aimait bien faire des petites manips dans notre labo et comme vous allez le voir, ça ne s'est pas arrêté. Daniel a ensuite fait une thèse en atomes froids dans le groupe voisin du nôtre, qui était le groupe de Christophe Salomon et Frédéric Chevy. Voilà. Une thèse à la fois expérimentale et puis théorique, puisqu'il y avait des expériences avec des mélasses sur du lithium et puis des théories sur les fermions de Weyl, c'est ça, comme ça que ça s'appelait. Et puis ensuite, eh bien, il a décidé de quitter le domaine des atomes froids pour aller faire de la lumière et de la matière, mais à des échelles d'énergie plus élevées. D'abord avec un postdoc au Japon. Voilà, ça a duré un an, deux ans ?
Un an.
Un an. Et puis ensuite, postdoc, donc c'était l'école polytechnique ou...
Laboratoire des interfaces et des couches minces.
Oui, ça, laboratoire des couches minces, voilà, de l'IX. Je reprends ma feuille. Oui, au Japon, j'ai oublié de le dire, c'était à Tokyo, Research Center for Advanced Science and Technology. Et ensuite, donc, à l'École Polytechnique, Interface et Couches Minces. Et Daniel est maintenant maître de conférence à l'École Polytechnique. Il travaille à l'Institut Photovoltaïque d'Île-de-France. Et donc, il s'intéresse au photovoltaïque, en particulier à haut rendement. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais quand même dire qu'il est, en plus de faire sa recherche, il est impliqué dans beaucoup d'opérations de médiation. J'admire vraiment beaucoup ce que tu fais. Il a été médiateur auprès de la découverte pendant sa thèse. C'était pendant sa thèse, hein, je crois. C'est lui qui a introduit le International Physics Tournament en France en 2013. Et puis, tu es toujours membre du comité d'organisation, je crois. Tu as été ambassadeur de la Fête de la Science pour la région Île-de-France 2018. Je ne vais pas tout dire, mais une chose importante, c'est que tu as coécrit avec Eric Johnson un livre qui s'appelle « L'énergie solaire photovoltaïque » dans la collection de EDP Science, la collection Une Introduction à, une collection qui est dirigée par Michel Leduc et Daniel Lebellac. Et c'est un livre magnifique, très belle introduction. Et donc, je suis ravi que tu puisses venir nous parler de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci Jean, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'introduction. J'ai des souvenirs importants dans ma thèse de venir écouter les cours de la chaire Atomes et Rayonnement au collège. Donc, me retrouver maintenant de ce côté de la scène. C'est à la fois un grand plaisir, un grand honneur, et je suis très impressionné d'être ici pour vous parler. Je vais vous parler d'énergie solaire photovoltaïque. Évidemment, on est assez loin du thème des gaz quantiques magnétiques, mais je vais essayer de vous présenter le sujet sous l'angle du thème de la chaire, donc de l'interaction lumière-matière, en vous montrant comment on met ces outils à l'œuvre dans le domaine, à la fois pour comprendre le fonctionnement des cellules, mais aussi pour caractériser ce qui éventuellement peut permettre d'améliorer leur fonctionnement. Je vais commencer quand même par poser quelques ordres de grandeur un peu généraux sur le domaine, avant de rentrer dans la physique qui m'intéresse. Je pense que c'est des ordres de grandeur qui permettent de comprendre pourquoi il y a un intérêt particulier à porter au photovoltaïque. L'ordre de grandeur que je vous propose, c'est simplement une estimation de la puissance de la ressource solaire. Si vous considérez le Soleil comme un corps noir qui rayonne suivant la loi de Stefan, sigma T4, et que vous répartissez cette puissance sur une sphère qui a comme rayon la distance entre la Terre et le Soleil, vous trouvez une puissance d'à peu près 1360 watts par mètre carré. Et ça, c'est un ordre de grandeur important dans toutes les sciences du climat, puisque c'est le terme d'apport énergétique du système Terre. Cette puissance, il y en a une partie seulement qui arrive au niveau du sol, il y en a une partie qui est réfléchie par l'atmosphère, une partie qui est absorbée. Et donc, au niveau du sol, quand vous êtes en plein soleil sur une journée d'été, vous récupérez sous nos latitudes d'à peu près 1000 watts par mètre carré. C'est un autre ordre de grandeur qui est important, c'est celui qui caractérise la puissance que vous pouvez essayer de convertir en puissance instantanée. Et puis si ce qui vous intéresse, ce sont des questions d'énergie, alors ce que vous voulez, ce n'est pas la puissance instantanée, mais c'est une puissance moyenne sur l'année, en tenant compte de l'alternance jour-nuit, des saisons, des nuages, et vous arrivez à une puissance typique de 150 watts par mètre carré. Ça, c'est la ressource énergétique du rayonnement solaire. Qu'est-ce que ça représente concrètement, ces chiffres ? Si ce petit carré ici représente la consommation d'énergie primaire de l'humanité pendant un an, à peu près 600 hexajoules, 15 milliards de tonnes équivalent de pétrole, ou 18 terawatts utilisés en moyenne sur l'année, en fonction de l'unité qui vous parle le plus, ça c'est la ressource solaire qui arrive sur les terres émergées dans la même durée. Donc j'exclus les océans, je tiens compte de l'alternance jour-nuit, je tiens compte des nuages, et en fonction de comment on fait le calcul, la ressource solaire c'est à peu près 1000 à 10 000 fois la consommation actuelle d'énergie primaire de l'humanité. Donc si on pense qu'il y a un enjeu à changer nos façons de nous approvisionner en énergie, alors il y a là une ressource sur laquelle c'est difficile de faire l'impasse. Le solaire photovoltaïque, c'est une des façons de tirer parti de cette ressource, souvent une conversion directe de la lumière en électricité. Et le solaire photovoltaïque a des avantages. C'est une technologie qui est modulaire, c'est le même panneau que vous achetez, que vous vouliez en installer un sur votre toit ou des milliers sur un terrain vague. C'est une technologie qui est aujourd'hui efficace, qui ne nécessite pas de concentration optique, qui n'a pas de pièces mobiles, donc peu d'usure. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles la filière photovoltaïque a connu un développement spectaculaire depuis une trentaine d'années. Ça, c'est l'énergie totale produite par les installations solaires dans le monde par an. La même donnée en échelle log, vous voyez qu'on peut tracer une droite raisonnable avec un taux d'à peu près 30%, une augmentation d'à peu près 30% de l'énergie solaire produite tous les ans depuis 30 ans. Alors, il faut se méfier des exponentielles, évidemment, ça continue jamais jusqu'à l'infini, mais c'est une dynamique qui mérite d'être soulignée et qui est à la fois permet et est entraînée par une diminution spectaculaire des coûts de production. Ça, c'est une courbe d'apprentissage, donc c'est le coût nécessaire à fabriquer un panneau supplémentaire en fonction du nombre de panneaux déjà produits, pour faire simple. Et vous voyez, dans l'espace de 50 ans, une diminution des coûts d'un facteur à peu près 500. Donc le photovoltaïque, c'est un domaine extrêmement actif sur le plan industriel. Il faut quand même remettre un tout petit peu ces chiffres en perspective pour se donner une notion de la route qui reste à parcourir. Vous voyez ici une production annuelle en 2022 de l'ordre de 1 000 à 1 200 TWh. Ces 1 200 TWh, ça représente à peu près 4% de la production électrique totale. Donc l'exponentielle que je représente ici permet de passer de rien à un peu. Et la production électrique, même si on a tendance à réduire beaucoup le débat sur l'énergie au débat sur l'électricité, la production électrique représente à peu près 20% de notre consommation d'énergie. Autrement dit, on a déjà fait beaucoup de chemin, il faut se réjouir, je pense, des progrès qui ont été faits, mais la route est encore très très longue. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire, aussi bien sur le plan du développement industriel que sur le plan de la physique, qui est vraiment le sujet sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cellule solaire? Quel est cet objet qui permet de produire de l'énergie électrique à partir du rayonnement solaire? En fonction d'à qui vous posez la question, vous allez trouver des réponses très différentes. Pour quelqu'un qui fait de la thermodynamique, une cellule solaire, c'est essentiellement un convertisseur qui transforme de la chaleur portée par rayonnement en travail porté par de l'électricité. Pour quelqu'un qui fait des semi-conducteurs ou de la physique du solide, c'est un dispositif doté de propriétés optoélectroniques, et on va beaucoup parler de propriétés optoélectroniques aujourd'hui, et donc il s'agit essentiellement de caractériser les propriétés des électrons et des trous dans un diagramme de bande. Si vous discutez avec quelqu'un qui fait de l'ingénierie électrique, une cellule solaire, c'est essentiellement un générateur de courant associé à une diode, et puis avec éventuellement des résistances qui peuvent rendre compte des imperfections du dispositif. Si vous parlez avec quelqu'un qui fait de la science des matériaux, il va parler de la façon de construire une cellule solaire, des différentes couches, des différentes interfaces et des procédés qui permettent de la réaliser. Du côté de l'industrie, c'est un objet qu'il s'agit de réussir à produire en grande quantité et si possible pas trop cher. Et si vous êtes le réseau électrique, ce qui vous intéresse, c'est moins comment ça fonctionne que qu'est-ce que ça produit, quand et comment. Aujourd'hui, j'ai essentiellement me concentré sur ces quatre premières images pour vous proposer la cellule solaire vue sous l'angle de l'interaction entre la lumière et la matière. Il y a évidemment plein de choses à dire aussi sur ces perspectives-là, qui sont importantes ou peut-être les plus importantes si on est dans une perspective de scénario énergétique. Mais si c'est des questions qui vous intéressent davantage, je vous renvoie à quelques références. Un guide qui a été fait avec des collègues académiques du CNRS et porté par la Fédération du photovoltaïque, c'est un guide qui est en ligne sur le site solairepv.fr et qui est en licence Creative Commons, donc qui est partageable très largement, qui est une FAQ du photovoltaïque, les questions fréquemment posées. Je vous renvoie aussi au cours au Collège de France de Daniel Linco sur la chaire de l'innovation technologique Liliane Bettencourt. Et puis Jean m'a fait l'amitié de citer ce livre qu'on a écrit récemment avec Eric Johnson, qui rentre beaucoup moins dans la physique et qui propose davantage un tour d'horizon des technologies. Je vous l'ai dit, moi aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur l'interaction lumière-matière. Je vais faire ça en trois temps. Je vais commencer par raconter comment la matière peut être utilisée pour convertir la lumière. Donc on envoie des photons sur le système et on veut en sortir des électrons. Et ça, ce sera l'occasion de vous parler de la thermodynamique du photovoltaïque et de vous montrer avec un modèle d'abord simple comment on peut établir les ordres de grandeur, les lois d'échelle, les contraintes, le cahier des charges. Qu'est-ce que vous devez réaliser si vous voulez faire une conversion photovoltaïque? Dans ce voyage ici, on va parler de la façon dont le dispositif photovoltaïque émet de la lumière. Et ça va être l'objet de ma deuxième partie. On envoie des photons et on sort des photons. Et ça, c'est le principe de la photoluminescence. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour comprendre le fonctionnement d'un dispositif. Ce sont des outils sur lesquels porte une grande partie de nos recherches au laboratoire. Et puis, je vais finir le chemin en renversant complètement la focale, en vous proposant cette fois-ci d'injecter des électrons pour sortir des photons. C'est l'électroluminescence, et vous verrez que ça apporte des informations complémentaires. Alors, commençons par le commencement, la thermodynamique de la conversion de l'énergie solaire. J'ai un rayonnement de corps noir qui est émis par le Soleil, j'ai un système qui absorbe ce rayonnement, et je voudrais réussir à en faire du travail. Le premier point à considérer, c'est que si un système absorbe de la lumière, alors nécessairement, il doit en émettre, en fonction de comment vous voulez appeler ça. C'est la loi de Kirchhoff, ou c'est tout ce qui doit monter doit descendre. J'ai découvert assez récemment que cette phrase, cette loi-là, est due à Murphy, le même Murphy que la loi de Murphy, qui est aussi l'inventeur du siège éjectable. Et je trouve que quand on met ces trois informations en même temps, ça devient inquiétant. Ce que vous dit Kirchhoff ou Murphy, c'est l'idée que si vous êtes capable d'absorber une longueur d'onde, alors vous devez être capable de l'émettre avec la même efficacité. Autrement dit, l'absorptivité est reliée à l'émissivité qui caractérise le rayonnement du corps. Donc mon objet ici, que je mets noir, j'imagine que c'est un absorbeur parfait qui absorbe toute la lumière du soleil, nécessairement il doit aussi réémettre du rayonnement. Ce qu'il me reste entre ce que le système a absorbé et ce que le système a perdu en radiation, je peux essayer d'en faire quelque chose. Et si je veux convertir de la chaleur en travail, le mieux que je puisse faire, c'est une machine de Carnot. Donc je vais confier cette chaleur qui me reste à un moteur qui va travailler entre une source chaude, mon absorbeur, et une source froide, mon environnement, pour pouvoir produire du travail. Alors si je mets des équations derrière tout ça, la chaleur reçue, c'est la chaleur du soleil répartie sur la distance Terre-Soleil multipliée par la surface qui collecte ce flux. La chaleur émise, c'est aussi une loi de Stefan, puisque mon absorbeur est un absorbeur parfait, c'est aussi un émetteur parfait, c'est-à-dire un corps noir. La chaleur que je peux donner, c'est la différence entre ce que j'ai reçu et ce que j'ai déjà perdu. Et l'efficacité avec laquelle je peux la convertir, c'est le rendement de Carnot. Là, j'ai la meilleure machine possible sur ce schéma-là, le meilleur absorbeur du monde et le meilleur convertisseur du monde. Je peux estimer le rendement comme le ratio entre le travail que je récupère et la chaleur que j'ai récupérée. C'est quoi le rendement maximum de ce truc-là ? Ben, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui dépend de la température de l'absorbeur. Si l'absorbeur ici est chaud, la machine de Carnot va être efficace, mais je vais perdre beaucoup en rayonnement. Si l'absorbeur est froid, je perds peu en rayonnement, je peux donner beaucoup de chaleur au moteur, mais comme l'absorbeur est froid, il y a peu de différence de température et le moteur ne va pas bien marcher. Si je mets les deux ensemble, sous l'illumination d'un soleil, le rendement maximum est de l'ordre de 6%. C'est la meilleure machine thermodynamique utilisée en corps noir. Autrement dit, si on veut faire du photovoltaïque, c'est-à-dire la conversion directe de l'énergie solaire en électricité, il va falloir utiliser autre chose qu'un absorbeur parfait pour réussir à contourner ce mauvais compromis. L'astuce, c'est de proposer un filtrage spectral. C'est de se dire que le rayonnement du soleil n'est pas, que j'ai envie d'absorber, n'est pas dans les mêmes gammes d'énergie que le rayonnement thermique de la cellule que j'ai envie de ne pas émettre. Kirchhoff me dit que chaque longueur d'onde que j'absorbe, je suis obligé de l'émettre, et chaque longueur d'onde que je ne veux pas émettre, je n'ai pas le droit de l'absorber. Mais vous voyez ici que si je choisis bien mon seuil, je peux dire que j'accepte d'absorber les photons à haute énergie. Ça veut dire aussi que je vais émettre ces photons-là, mais tant pis, il n'y en a pas beaucoup. Et à l'inverse, je vais refuser d'émettre ces photons. Ça veut dire que je me prive de l'absorption du spectre solaire ici, mais ce n'est pas forcément très grave parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc si je veux réussir à faire du travail à partir de la lumière solaire, il me faut quelque chose qui a une absorption sélective. Ce n'est plus un corps noir. D'un point de vue matériau, qu'est-ce qui me permet d'avoir une absorption comme ça avec un seuil ? C'est un matériau semi-conducteur. Donc là, j'ai introduit les deux ingrédients dont je vais avoir besoin pour vous parler de comment fonctionne une cellule solaire. Le rayonnement solaire d'une part, et un dispositif semi-conducteur d'autre part. Qu'est-ce qui se passe quand j'éclaire ce dispositif avec les photons du soleil ? Si je l'éclaire avec des photons de basse énergie, il ne se passe rien, le matériau est transparent, si le photon n'a pas suffisamment d'énergie pour promouvoir un électron de la bande de valence à la bande de conduction. Si j'éclaire maintenant le système avec un photon de haute énergie, il va promouvoir un électron ici, de la bande de valence à la bande de conduction. L'électron ne va pas rester là où je l'ai excité, il va redescendre en bas de bande en dissipant son excès d'énergie cinétique. Ça, c'est ce qui se passe quand j'ai un photon. Évidemment, je suis soumis à une illumination qui est continue, et donc je vais en réalité accumuler des photons dans mon dispositif. J'accumule les photons, et donc je me retrouve avec une population d'électrons excités et une population de trous, c'est-à-dire d'électrons déplétés, dans la bande de valence. Évidemment, les électrons ne vont pas rester ici pour toujours. Si j'attends suffisamment longtemps, ils vont finir par recombiner, et je vais perdre quelques électrons de la bande de conduction vers la bande de valence. Ceux-là, ils sont perdus. Il s'agit ensuite de mettre ces électrons au travail. Pour ça, il faut que je les sorte de l'absorbeur où ils ont été générés, que je les amène vers les contacts de mon dispositif, et que je fasse cette extraction de façon sélective, pour que les électrons aillent tous dans le même sens. Si j'ai autant de courant qui va dans un sens que de courant qui va dans l'autre, le courant total est nul. Et à partir de ce moment-là, je peux extraire l'électron ici de la bande de conduction, le faire travailler dans un circuit, et le ramener dans la bande de valence, et j'aurai gagné une énergie qui correspond ici à la différence entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire l'énergie du gap. Alors c'est un petit modèle qui est très simple, mais qui me permet de vous souligner quatre fonctions fondamentales que tous les dispositifs photovoltaïques doivent réaliser, quelles que soient les technologies, Dieu sait qu'il y en a. La première chose, c'est de l'absorption. Il faut réussir à ne pas absorber les photons qu'on ne veut pas absorber et absorber parfaitement les autres. Il faut réussir à garder les électrons excités, faire en sorte que les électrons restent dans la bande de conduction le plus longtemps possible. Il faut leur permettre de bouger. S'ils restent juste là où ils sont, ils ne servent à rien. Et il faut qu'ils bougent dans le bon sens, il faut que je leur indique la direction dans laquelle aller. Ces quatre fonctions, on les retrouve dans l'architecture des cellules solaires. Je représente ici une cellule solaire en silicium parce que c'est 95% du marché à l'heure actuelle. Et si je regarde où est-ce que je retrouve ces fonctions dans l'architecture du dispositif, le silicium, c'est un matériau qui a un mauvais coefficient d'absorption. Donc pour réussir à absorber la lumière, il faut un matériau qui est relativement épais, typiquement 150 microns d'épaisseur, ce qui va distinguer le silicium de la filière des couches minces, par exemple. Et puis pour améliorer le piégeage de la lumière, on va texturer la surface pour faire en sorte que la lumière, une fois rentrée, soit diffusée à l'intérieur du dispositif. Et on va rajouter une couche anti-reflet pour éviter de perdre de la lumière simplement due à la différence d'indice optique entre le silicium et l'air ambiant. Les porteurs excités ont une bonne durée de vie dans le silicium et donc il s'agit essentiellement de les empêcher de recombiner au niveau des interfaces. C'est pour ça qu'on rajoute des couches d'oxyde de silicium pour passiver les interfaces et garder les porteurs excités le plus longtemps possible. Les électrons peuvent bouger facilement dans le silicium et donc on compte sur simplement leur diffusion au sein du dispositif pour les amener vers les contacts. Et puis pour ce qui est de la sélectivité, il y a deux grandes stratégies pour le silicium. Soit on introduit des impuretés pour doper le matériau et induire une courbure de bande qui va favoriser le transfert dans un sens et empêcher le transfert dans l'autre. Soit on joue sur l'interface entre le silicium et les couches qui le précèdent et qui le suivent. Et c'est les stratégies dites d'hétérojonction. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail des architectures des cellules. C'est juste ici pour vous montrer la façon dont on peut relier des considérations très basiques à l'architecture de système réel. Donc le premier ingrédient que je tire de ce petit modèle, c'est cette identification, ce cahier des charges de quatre fonctions fondamentales. Le deuxième ingrédient que je tire du modèle simple, c'est une limite de conversion. Dans ce petit modèle, le nombre d'électrons que je peux essayer de récupérer pour faire du courant électrique, c'est à peu près le nombre de photons que j'arrive à absorber. Autrement dit, c'est l'intégrale au-dessus du gap du spectre solaire. Je prends tous les photons qui ont plus d'énergie que le gap. D'autre part, on a considéré que les électrons, quand je les retirais de la bande de conduction et que je les réinjectais dans la bande de valence, me donnaient une énergie de l'ordre du gap. Donc je peux estimer la puissance que je tire de ce dispositif, c'est le nombre d'électrons que je récupère par seconde fois l'énergie que me donne chacun de ces électrons. Et cette expression-là, qui est très simple, elle vous permet de sentir l'existence d'un optimum ou d'un maximum d'efficacité. Si le gap est trop petit, je vais avoir un courant qui est important parce que je vais avoir autant d'électrons que de photons dans le spectre du Soleil, ce qui est une bonne chose, mais chacun de mes électrons va me donner très peu d'énergie, donc je vais avoir très peu de puissance. A l'inverse, si j'ai un gap qui est très grand, chaque électron me donne beaucoup d'énergie, mais j'ai très peu d'électrons générés parce que très peu de photons arrivent à exciter le matériau. Donc je vais avoir très peu de puissance. Donc il y a un optimum quelque part entre les deux que je représente ici, en vous représentant l'efficacité de la conversion en fonction du gap, et on trouve sur ce modèle simple un rendement maximum de l'ordre de 40% pour un gap de l'ordre de 1 électron volt. où passe le reste de la puissance? Une partie est perdue dans la dissipation de l'énergie. J'ai mis un électron à haute énergie avec un photon bleu. Et j'ai gaspillé cet excès d'énergie dans la relaxation de l'électron. Je ne récupère que l'énergie du gap. Et une partie est perdue de façon optique dans les photons que je n'ai pas absorbés. Ce petit modèle très simple vous donne un ordre de grandeur qui n'est pas exact, mais pas délirant sur le fonctionnement maximum des cellules. On verra un peu plus tard qu'un modèle plus précis arrive à 30% à peu près. Il vous donne une valeur du gap optimal de l'ordre de 1 électronvolt. C'est le bon ordre de grandeur pour faire un matériau qui réalise un effet photovoltaïque efficace. Je vais quand même aller plus loin que ce petit modèle, parce que c'est ce qui va me permettre d'introduire d'abord un modèle thermodynamique correct, et puis d'introduire des outils dont je vais me servir par la suite, quand je vais m'intéresser à l'interaction, à la façon dont la matière est capable d'émettre de la lumière. Qu'est-ce qui ne me satisfait pas dans ce petit modèle de Triwisch-Flynn? J'ai exprimé la puissance comme le nombre de photons absorbés multiplié par l'énergie du gap. Ces deux quantités sont fausses, en réalité. Ce qui m'intéresse réellement, c'est une puissance électrique. Une puissance électrique, c'est un courant fois une tension. Le courant que j'obtiens n'est pas réellement le nombre d'électrons générés. Pourquoi? Parce que j'ai des électrons qui recombinent. On l'a dit dès le départ, si mon système absorbe, alors il doit émettre. Puis là, j'ai passé sous le tapis la question des émissions. Je vais la remettre en évidence. Le nombre d'électrons que je peux sortir de mon système, c'est la différence entre le nombre d'électrons que j'ai généré et le nombre d'électrons que j'ai perdu par recombinaison. Donc si je veux calculer le courant, il faut que j'estime combien d'électrons, combien de porteurs recombinent par seconde. D'autre part, ce qui m'intéresse réellement, c'est la tension électrique. La tension électrique, ce n'est pas exactement le gap du semi-conducteur. Le gap du semi-conducteur, c'est l'énergie totale que je récupère quand je fais cette transformation. Mais dans cette énergie, il y a une part de travail et une part de chaleur. Et le travail est la seule partie qui m'intéresse ici. La tension électrique, c'est le travail que je récupère quand je bouge un électron d'un état initial vers un point final. Donc il faut que j'arrive à distinguer dans l'énergie que je récupère quelle est la part de travail et quelle est la part de chaleur. Pour répondre à ces deux questions, c'est le même outil qui va m'aider. Et cet outil fondamental pour le photovoltaïque, c'est le potentiel chimique, ou si vous préférez le dire en termes de nombre de particules, c'est la quantité de population hors d'équilibre. Qu'est-ce qui fait que mon système est capable de produire du travail? C'est parce qu'il est hors d'équilibre. Qu'est-ce qui fait qu'il est hors d'équilibre? C'est pas parce qu'il est chaud, c'est parce qu'il n'a pas la même population que ce qu'il aurait s'il était dans le noir. Et c'est essentiellement cette idée-là qu'on retrouve dans ces deux résultats. Je vais passer sur ce résultat, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on estime ces deux choses. Je vais faire ça assez rapidement et je vais faire ça assez dans le détail parce que c'est des outils conceptuels qui sont assez proches de ceux qu'on mobilise dans la physique atomique et puis que ce sont des résultats que je vais avoir besoin d'utiliser pour la suite. Je commence par cette première question. Combien de travail est-ce que je peux récupérer quand je fais la transformation qui consiste à prendre un électron de la bande de conduction et à le réinjecter dans la bande de valence? Il y a plusieurs façons d'attraper les choses. Comme j'ai envie ici de le faire assez vite, je vais le faire de manière un peu formelle, un peu efficace, en disant la quantité de travail que je peux récupérer dans une transformation, c'est la variation du potentiel thermodynamique. Et ici, je fais une transformation qui est à température et à volume constant. Le potentiel thermodynamique, c'est l'énergie de Helmholtz, c'est l'énergie libre, c'est U-TS. De combien varie l'énergie libre quand je fais la transformation qui consiste pour l'instant simplement à retirer un électron de la bande de conduction? Et bien c'est la variation de l'énergie libre avec le nombre de particules, et ça par définition, c'est le potentiel chimique des électrons dans cette population. Qu'est-ce que c'est que ce potentiel chimique? Si j'essaye quand même de lui donner un sens un tout petit peu moins formel et un tout petit peu plus facile à attraper, le potentiel chimique, c'est ce qui apparaît dans la fonction d'occupation de Fermi-Dirac, et donc si je veux compter le nombre d'électrons qui sont dans la bande de conduction, j'intègre sur tous les états la densité d'état multipliée par le facteur d'occupation, et si mon système est non dégénéré, je trouve que le nombre d'électrons qui sont dans la bande de conduction augmente exponentiellement avec le potentiel chimique. Donc le potentiel chimique, si vous voulez, c'est le logarithme du nombre d'électrons dans la bande de conduction. Plus j'ai des électrons, plus le potentiel chimique est élevé, et plus je récupère du travail au moment où j'extrais un électron. Je ne me contente pas d'extraire l'électron, il faut maintenant que je le rende à la bande de valence. Et ça, c'est une autre transformation qui consiste à rajouter un électron dans la bande de valence. Et ça, ça va me coûter du travail. Et le travail que ça va me coûter, c'est la variation de l'énergie libre quand je fais cette transformation, c'est-à-dire le potentiel chimique de la bande de valence. De la même manière, le potentiel chimique de la bande de valence, c'est le nombre de lacunes, le nombre de trous qui me restent dans la bande. Si je mets ces deux éléments-là ensemble, quand je prends un électron de la bande de conduction et que je le mets dans la bande de valence, quelle est la quantité de travail que je peux récupérer, c'est-à-dire quelle est la tension électrique que je peux espérer atteindre, et bien c'est la somme de ces deux contributions, c'est-à-dire la différence de potentiel chimique ou de niveau de Fermi, peut-être ce serait plus familier si je parlais de niveau de Fermi ici, de niveau de Fermi entre la bande de conduction et la bande de valence. Si je le réécris en termes de population, cette différence de niveau de Fermi correspond à quoi ? Ça correspond au produit entre les électrons et les trous, ou plus exactement, à la différence entre le produit des populations et ce que serait ce produit à l'équilibre. Si je suis à l'équilibre, ça sous-entend que tout mon système est décrit par une seule température, un seul potentiel chimique. Dans ce cas-là, je ne peux pas produire de travail. Et dans ce cas-là, le produit NP est donné par Ni carré. Si je suis hors d'équilibre, le potentiel chimique des électrons et le potentiel chimique des trous devient différent, et le produit NP devient plus grand que Ni carré, c'est mon excès de population. Si je résume maintenant tout ça en une formule, je l'encadre ici parce que pour moi ça fait vraiment partie des formules importantes dans le domaine, la tension que je peux espérer récupérer aux bornes de mon dispositif est liée à la différence des niveaux de Fermi au sein de l'absorbeur que je peux relier à l'excès de population dû à la photogénération, ou à l'équilibre entre la photogénération et la recombinaison. Et donc maintenant, je vais me concentrer sur cette deuxième partie de la recombinaison. Alors, oui, j'ai quand même dit qu'à un moment qu'il fallait que je définisse ce que c'était que l'effet photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est fondamentalement que l'effet photovoltaïque ? L'effet photovoltaïque, c'est la génération d'une tension aux bornes d'un dispositif due à un déséquilibre de population dans l'absorbeur induit par l'absorption de la lumière. Je crois que c'est comme ça que je peux essayer de le définir de la manière la plus fondamentale possible. Ça ne vous dit pas comment on l'obtient, mais ça vous dit ce que c'est. Alors maintenant, je vais passer sur cette deuxième ingrédient qui est de calculer le nombre de recombinaisons par seconde. C'est ça qui va me permettre de calculer le courant que je sors. Les deux slides qui vont suivre sont les slides les plus techniques du cours parce que je vais vraiment vous démontrer l'expression. Je vais à la fin reprendre le résultat et puis vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Donc si la partie technique ne vous accroche pas particulièrement, il y a essentiellement deux slides au travers desquels il faut réussir à passer. La question qui m'intéresse est de savoir combien de porteurs recombinent dans mon système par seconde. Pourquoi est-ce que ces porteurs recombinent ? Je l'ai déjà évoqué, à minima, ils doivent recombiner parce qu'il faut qu'ils soient en mesure d'émettre un rayonnement. S'ils n'étaient pas en mesure d'émettre ce rayonnement, ils ne seraient pas non plus en mesure d'absorber le rayonnement et le gap ne serait pas là où je pense qu'il est. Donc, si je veux considérer la quantité minimum de recombinaisons, il y a une question équivalente, duale, à savoir combien de porteurs recombinent par seconde, c'est la question de combien de photons sont émis par mon système par seconde. Puisque chaque photon qui est émis vient d'une recombinaison, si je compte les photons qui sortent, je compte le nombre total de recombinaisons qui ont eu lieu dans le matériau. Et ce nombre de recombinaisons par seconde tient donc du taux net de recombinaison ici, et ce taux net localement me donne la variation du flux de photons à l'intérieur du dispositif. Donc si je mets ces idées ensemble, le nombre total de recombinaisons par seconde, qui va être donné par l'intégrale dans l'épaisseur du dispositif du nombre de recombinaisons locales nettes, est égal au flux de photons qui sort de l'échantillon. Je vais m'intéresser ici à cette question pour calculer les recombinaisons. Dans la deuxième partie, je m'intéresserai à ce même calcul pour calculer le flux de photons émis. Comment est-ce que je fais ce calcul ? Je vais faire un calcul local. Je me mets à un endroit donné de mon dispositif et je vais essayer de calculer le nombre de transitions qui ont lieu par unité de volume, par unité de temps, à une énergie donnée, par unité spectrale. La façon de calculer cette chose-là, essentiellement, c'est la règle d'or de Fermi. Et ça, c'est un outil qui est familier aux spectateurs réguliers, aux étudiants réguliers de cette chaire. Alors, si j'écris la règle d'or de Fermi de façon un peu brutale, je vous avais prévenu, le nombre de recombinaisons par émission spontanée, c'est 2 pi h bar, une densité d'état. Alors, je ne précise pas exactement comment elle est obtenue, mais il y a d'une part la densité d'état des photons, le nombre d'états qui peuvent être peuplés par la recombinaison, le nombre, la densité d'état électronique qui est en mesure de générer cette transition, l'élément de matrice qui dit à quel point la transition est probable ou forte, le recouvrement entre les fonctions d'onde, et puis un facteur d'occupation qui me sert de facteur de pondération. Pour que la transition ait lieu, il faut non seulement qu'elle soit possible, mais aussi qu'il y ait des particules qui soient en mesure de la faire. S'il y a de l'émission spontanée, alors il y a de l'émission de photons, et s'il y a des photons qui sont dans l'environnement, alors ces photons peuvent aussi être absorbés. Donc il faut aussi que je compte le nombre d'absorptions qui ont lieu par seconde. Avec le même outil, le même élément de matrice, puisque c'est la même transition qui est à l'œuvre dans l'autre sens. Cette fois-ci, je compte plus la densité de l'état de photons, mais la densité réelle, spectrale de photons qui sont présents. Et puis j'inverse ici les facteurs d'occupation. Ce qui m'intéresse pour émettre, c'est qu'il y ait un électron dans la bande de conduction et qu'il y ait de la place dans la bande de valence. Ce qui m'intéresse pour absorber, c'est qu'il y ait un électron dans la bande de valence et de la place dans la bande de conduction. Et puis si j'ai de l'absorption, c'est-à-dire une présence de photons, j'ai aussi de l'émission stimulée. Ça, c'est les trois grands procédés de l'interaction lumière-matière. Et donc, je peux l'exprimer avec les mêmes ingrédients. Ça, c'est vraiment la façon de poser les choses de manière un peu brutale. Et je vais réécrire ces expressions en faisant apparaître des grandeurs physiques qui sont un peu plus faciles à attraper. La différence entre le taux d'absorption et le taux d'émission stimulée, c'est le coefficient d'absorption du matériau. C'est-à-dire à quel point la matière est absorbée quand elle se propage à l'intérieur du matériau. Ça me permet de réécrire le coefficient d'absorption à partir de la règle d'or de Fermi que j'avais écrit plus tôt. Vous voyez essentiellement que c'est ces facteurs d'occupation qui changent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écrire ça? Parce que ça me donne une façon de relier ce truc barbare ici avec une somme et les éléments de matrice à un coefficient d'absorption, qui est une grandeur beaucoup plus facile à intuiter. Je vais donc m'en servir pour réécrire mon taux d'émission spontanée de façon à faire apparaître la même grandeur ici que celle que j'ai là. Et quand je fais apparaître ça comme ça, j'ai simplement multiplié et divisé par ce terme au numérateur et au dénominateur. Je fais apparaître cette quantité qui est assez particulière quand on l'exprime, parce que c'est quelque chose qui ne dépend que de l'énergie du photon et de la différence entre les niveaux de Fermi. Autrement dit, c'est un terme qui ne dépend plus du détail de la somme. Donc je peux le sortir de la somme et je me retrouve ici à avoir exactement le coefficient d'absorption que j'ai défini là. Autrement dit, le taux d'émission spontané, je peux l'écrire comme le coefficient d'absorption fois un terme qui ressemble furieusement à la loi de Planck, à part que j'ai un potentiel chimique non nul et positif pour le rayonnement. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors je reprends ces deux équations auxquelles je suis arrivé, et c'est mon dernier slide de démonstration. Ça, c'était le calcul de ce qui se passe localement ici. Il s'agit maintenant d'intégrer ça dans l'épaisseur. Je passe ce détail-là pour estimer le flux total de photons qui sort, qui est, comme on l'a dit au départ, équivalent au nombre total de recombinaisons dans l'absorbeur. Et j'obtiens quelque chose qui est maintenant exactement la même chose que la loi de Planck, pondéré par l'absorptivité de mon dispositif, ça ressemble à la loi de Kirchhoff, avec un potentiel chimique au niveau du dénominateur. Si je suis dans une limite où j'ai un potentiel chimique ici qui est suffisamment faible, je peux approximer ça par une relation de Boltzmann, et je me retrouve à avoir quelque chose, un nombre de recombinaisons qui scale avec un préfacteur et l'exponentielle de delta mu. Et si vous vous rappelez, cette exponentielle de delta mu, on l'a déjà vu un petit peu plus tôt, exponentielle de delta mu, essentiellement, c'est le produit NP. Autrement dit, le nombre de recombinaisons, c'est proportionnel, dans le cas où tout est homogène, à l'excès de population dans mon dispositif. J'aurais pu l'attraper beaucoup plus facilement en commençant par là, en disant une recombinaison nécessite un électron et un trou, le nombre de recombinaisons par seconde va être proportionnel à la concentration d'électrons et à la concentration de trous, c'est une réaction chimique du premier ordre. Ça m'aurait permis d'estimer le nombre de recombinaisons, mais pas la distribution spectrale, et ça je vais m'en servir plus tard. Je reviens aux deux questions que j'avais posées. Quel est le nombre de recombinaisons par seconde? Je viens de l'estimer. Quel est le travail que je peux récupérer pour chaque électron que je sors et que je re-rentre? On l'a estimé aussi. Donc j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer la caractéristique courant tension, c'est-à-dire le lien entre le courant que je peux sortir du dispositif et la tension que je peux espérer en récupérer. Si je trace cette fonction, c'est une équation de diode, essentiellement. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici du point de vue qualitatif? Mon dispositif génère une tension parce qu'il y a un déséquilibre de population. J'éclaire mon dispositif, je ne sors pas les électrons, je les laisse dedans. C'est comme ça que j'ai le plus de déséquilibre possible. C'est comme ça que j'ai le plus d'électrons excités. C'est là que j'ai le plus de tension. Mais quand je fais ça, je ne sors aucun électron. Donc je n'ai pas de courant généré par mon dispositif. Si je commence à sortir les électrons, lentement d'abord, j'en sors un petit peu à chaque seconde. Je ne change pas beaucoup la population. Donc j'ai un peu de courant et quasiment toujours la même tension. Si je deviens gourmand et que je sors les électrons de plus en plus vite, en état stationnaire, la population dans la bande de conduction baisse. Et si la population baisse, alors la tension diminue. À la limite où j'extrais les électrons aussi vite que je les génère, la population est celle de l'équilibre. Et à ce moment-là, j'ai plus de tension. C'est le courant de circuit ouvert, de court-circuit, qui est ici. Autrement dit, on peut retrouver la courbe IV d'une diode sur une considération purement thermodynamique. Et je trouve que c'est assez joli, cette façon dont le photovoltaïque permet de passer de l'optique à la thermodynamique, à la science des matériaux. Maintenant, si ce qui m'intéresse, c'est la puissance, il faut que je multiplie le courant que j'extrais par la tension à laquelle je l'extrais, et donc je trouve qu'il y a un maximum, un point de fonctionnement à puissance maximum, et donc pour chaque gap, je vais pouvoir estimer la puissance maximum, et donc le rendement maximum du dispositif. Voilà ce que ça donne si je résume les choses. Ça, c'était le petit modèle simple que j'avais introduit plus tôt, modèle de Triwisch-Flynn. Ça, c'est le modèle de bilan détaillé. C'est les mêmes pertes par thermalisation et les mêmes pertes par recombinaison, pardon, les mêmes pertes par non-absorption. Mais je considérais auparavant que tout ce que je récupérais ici était utile. En réalité, là-dedans, il y a une part qui est perdue par rayonnement et une part qui est de la chaleur que j'extrais, alors que tout ce qui m'intéresse, c'est le travail. Les points jaunes que je représente ici, ce sont les technologies, les records de technologies obtenus en laboratoire. Et donc vous voyez plusieurs choses. D'abord que toutes les technologies sont dans la gamme de gap qu'on a identifiée comme étant la gamme pertinente. Vous voyez qu'elles sont bien en dessous de la courbe, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le modèle n'a pas raté un truc dramatique. Et vous voyez que ce sont des points qui sont relativement proches de la courbe. Autrement dit, le développement technologique se rapproche de cette limite théorique du modèle à simple jonction. Si j'essaie de résumer un tout petit peu ce qu'on a dit, je vous ai présenté ce modèle de bilan détaillé. Ce modèle de bilan détaillé fait des hypothèses sur l'absorptivité, sur la recombinaison, sur le transport et sur la sélectivité. On a fait l'hypothèse que tout ça fonctionnait parfaitement. Et on a trouvé une limite de conversion à 30%. Les records qui sont obtenus en laboratoire sont de l'ordre de 27%. Les dispositifs commerciaux, ceux qu'on peut acheter dans le commerce, sont de l'ordre de 20 à 22. Ça vous donne un peu des ordres de grandeur. Maintenant, cette limite de bilan détaillé, ce n'est pas la limite ultime. En réalité, la limite ultime, si on n'est pas limité par le fait d'avoir un gap, mais qu'on imagine des stratégies un peu plus alambiquées, elle est plutôt de l'ordre de 86%. Donc il y a encore de la marge entre la simple jonction et la vraie limite thermodynamique. Et le record du monde de conversion aujourd'hui est à peu près à 47%. Je laisse là la partie de la conversion. Et maintenant, je vais revenir sur un point qu'on a dérivé ensemble patiemment, qui est ce spectre émis par le dispositif photovoltaïque. Donc ce que je vous dis, c'est que si je prends un objet semi-conducteur photovoltaïque, que je l'éclaire, je génère un déséquilibre de population, donc un splitting des niveaux de Fermi, et parce que j'ai un déséquilibre de population et un splitting des niveaux de Fermi, alors je vais avoir une émission optique. Et ça, je vous propose de le voir en direct. C'est une cellule solaire à base de matériaux 3,5, avec un grand gap, suffisamment grand pour être dans le visible, qui m'a été offerte par David Lackner du Fraunhofer. Donc vous voyez là, la cellule n'est pas illuminée, elle est noire, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle absorbe la lumière, c'est le premier point qu'on lui souhaitait. Et si je l'éclaire avec un laser qui, je vous le rappelle, est vert, vous allez voir la luminescence de la cellule. Vous voyez que la cellule brille en rouge, et donc ça vous permet d'avoir une notion de quel est le gap du matériau qu'on est en train d'observer. Je montre juste, je ne vais pas le discuter vraiment beaucoup plus loin, mais je trouve que c'est une manip assez jolie. Vous voyez que quand j'éclaire ici, la cellule est rouge, le bandeau en bas reste noir. Quand j'éclaire le bandeau, c'est lui qui devient noir et la cellule, c'est lui qui devient rouge et la cellule qui reste noire. Alors on pourrait discuter comme ça de comment est-ce que la luminescence nous permet de dire des choses sur le transport des porteurs, mais j'ai résolu que je n'avais pas le temps de vous en parler et de vous le montrer vraiment, j'ai juste pas résisté au plaisir. Alors, voilà, c'était au cas où la manip ne marche pas en direct. J'ai suivi les bons conseils de Jean de préparer le au cas où. Alors cette lumière, évidemment, jusque-là, on l'a vue comme une perte. On s'est dit, la lumière, les recombinaisons qui émettent ces photons, si les recombinaisons minimum, en général, il y en a plein d'autres, des phénomènes qui induisent des pertes d'électrons excités. Chaque électron qui se recombine, c'est un électron que je ne récupère pas, donc c'est une perte. Mais c'est aussi une porte d'entrée sur ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Et donc c'est extrêmement riche d'enseignements, d'analyser cette lumière pour diagnostiquer ce qui se passe dans l'échantillon. Et je vous propose maintenant de vous montrer quelques applications de cette stratégie de caractérisation. Et pour ça, il faut que je revienne à vous décrire un peu plus précisément ce spectre qu'on a obtenu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce spectre ? On retrouve une baseline de corps noir. Et c'est un corps noir à température ambiante, donc avec une émission qui est maximum à environ 10 microns, très basse énergie. Et à plus haute énergie, dans les gammes qui vont m'intéresser, on est sur la partie de la décroissance exponentielle du spectre. Cette baseline de corps noir, elle est modulée par l'absorptivité du dispositif. Le dispositif, on lui souhaite d'être transparent à basse énergie, c'est pour ça que je n'ai pas montré ce qu'il y avait avant, et puis on espère qu'il est le plus opaque possible à plus haute énergie, et il y a une transition quelque part entre les deux. Et puis c'est un rayonnement qui est amplifié par le potentiel chimique, ici delta mu, qui est à la fois le potentiel chimique de radiation, donc je suis bien en train de considérer un ensemble de bosons avec un potentiel chimique positif, moi ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai croisé ça, mais c'est aussi la différence de potentiel chimique entre les électrons et les trous dans le matériau. Et c'est parce que le rayonnement est à l'équilibre avec les électrons et les trous qu'il y a cette égalité entre le potentiel chimique du rayonnement et la différence de potentiel chimique entre les électrons et les trous. Voilà trois applications de cette formule. Si je m'intéresse au spectre intégré, à l'intensité totale du spectre, à la quantité de lumière émise, alors j'intègre sur toutes les longueurs d'onde et j'ai quelque chose qui est essentiellement proportionnel à exponentielle de delta mu sur kt. Et rappelez-vous, le splitting des niveaux de Fermi dans l'absorbeur est lié à la séparation, à la tension aux bornes du dispositif. Autrement dit, je peux, en regardant la lumière émise par l'objet, vous dire quelle est la tension que cet objet est capable de générer. Voilà comment est-ce qu'on fait expérimentalement. On illumine un échantillon, on collecte la luminescence qu'il réémet, on envoie ça sur une photodiode. Idéalement, on calibre absolument pour avoir un flux en nombre de photons par mètre carré, par seconde, par star radian. Hein, et on obtient ici une courbe. Ça, c'est des résultats qui datent maintenant d'une vingtaine d'années. Cette courbe compare deux choses. On a fait cette manipla qui a été réalisée à différentes intensités de lumière. Et pour chaque intensité de lumière, on mesure d'une part la quantité, la tension ici, estimée à partir de l'intensité lumineuse, c'est la courbe bleue. Et d'autre part, on mesure électriquement la tension qu'on arrive à récupérer aux bornes du dispositif, c'est la courbe noire. Et vous voyez qu'il y a une excellente adéquation entre ces deux façons d'analyser les choses. Alors c'est quoi l'intérêt de faire une mesure optique alors qu'il suffirait d'avoir un contact électrique ? Ben c'est précisément toutes les situations où on n'est pas en mesure d'avoir un contact électrique. Parce qu'on est à un stade précoce de développement de matériaux et qu'on n'a pas encore développé les couches contacts, parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas avoir un accès physique à l'objet pour toutes sortes de raisons. Donc c'est une mesure optique de propriété électrique. Ça, c'est une technologie qui aujourd'hui est suffisamment mature, la luminescence, pour estimer la qualité dans un matériau semi-conducteur, qu'on l'implémente, elle est implémentée dans des chaînes de production industrielles qui font de la luminescence pour tester la qualité des wafers et des cellules en particulier. Si je m'intéresse maintenant à la partie à basse énergie du spectre, à basse énergie, l'absorptivité ressemble à peu près ou est proportionnelle au coefficient d'absorption. Donc si j'analyse le spectre à basse énergie, proche du gap et en dessous du gap, alors je suis capable de dire des choses sur le coefficient d'absorption. Et dans ce coefficient d'absorption, il y a des informations sur le gap du matériau, si c'est un gap direct ou si c'est un gap indirect, le coefficient d'absorption ne va pas scaler de la même manière avec l'énergie. Ça me permet de dire des choses éventuellement sur la présence de défauts par l'émission sub-band gap. Donc en faisant une analyse fine de ce qui se passe dans la luminescence proche du gap, et c'est par exemple ici ce qui est fait, ça c'est une estimation de l'absorptivité mesurée à partir de la luminescence sur un échantillon d'arsenure de gallium, on est capable d'estimer la quantité de défauts dans le matériau via la pente du coefficient d'absorption sub-band gap qui est caractérisé par l'énergie de Urbach liée à la quantité de défauts. Donc avec la luminescence, on a accès à la composition, à la structure du matériau, à la présence d'excitons, à la présence de défauts. En fonction de la finesse qu'on veut mettre dans l'analyse, on est capable de dire plein de choses. Si je finis ce tour d'horizon rapide de la luminescence en m'intéressant maintenant à la partie à haute énergie, je peux espérer que l'absorptivité est à peu près constante. Et dans ces cas-là, le spectre que j'obtiens ressemble essentiellement à la loi de Wien, c'est-à-dire à une approximation de la loi de Planck à haute énergie. C'est donc une loi qui est universelle et qui dépend essentiellement de la température du système qui émet. Quand je considère une cellule solaire classique, ce que je vous ai présenté jusque-là, je fais l'hypothèse que les électrons et le réseau sont à la même température et que c'est la température ambiante. Il y a des situations, et moi c'est des situations qui m'intéressent particulièrement, où j'envisage que la température des électrons puisse être plus importante, plus élevée que la température du réseau. Et c'est le cas en particulier si on excite les électrons suffisamment fort et que le couplage entre les électrons et le réseau est suffisamment faible. C'est quoi l'intérêt d'avoir des porteurs chauds? C'est qu'on a un système qui est encore plus loin de l'équilibre. Non seulement il y a un déséquilibre de population, mais en plus il y a un déséquilibre de température. Et ça, ça permet d'espérer gagner un boost de tension qui est proportionnel à la différence de température entre les électrons, ou les porteurs en général, et leur environnement. Je vous montre ici quelques exemples où on a fait le spectre dans un puits quantique, c'est pour ça qu'il y a, des signatures ici du confinement, à différentes puissances d'illumination. Vous voyez que plus on tape fort sur l'échantillon, plus on voit le spectre qui s'aplatit. Le spectre s'aplatit parce que si j'augmente la température ici, la baseline du corps noir devient de plus en plus plate. Et donc on est en mesure d'estimer, à partir du fit des spectres de luminescence, la température des électrons en fonction de la puissance du laser. On est capable aussi de se faire une idée de la température du réseau. Rappelez-vous que le coefficient d'absorption est lié aux propriétés du matériau. Et en particulier, si le réseau chauffe, on s'attend à ce que le gap bouge. Et donc on peut suivre où est la position ici du pic pour voir s'il y a un échauffement du réseau et distinguer ce qui tient de la température du réseau et la température des électrons. Je vous montre une application un tout petit peu plus loin du photovoltaïque, mais qui utilise exactement les mêmes outils et les mêmes principes. Si je fais une illumination intense et locale sur un échantillon, je vais créer à l'endroit de l'excitation beaucoup d'électrons. Et si je suis dans un dispositif qui permet de faire des porteurs chauds, beaucoup d'électrons chauds. Ces électrons, ils ne vont pas rester juste là où je les ai générés, ils vont diffuser. Par luminescence, je peux estimer en chaque point de l'échantillon, si j'ai de la luminescence résolue spatialement, ce qui s'appelle un hyperspectral, je peux estimer en chaque point de l'échantillon le spectre émis, et du spectre, je peux remonter aux propriétés thermodynamiques qui m'intéressent, le potentiel chimique, comme je l'ai montré au départ, et la température, comme je l'ai montré juste avant. Donc je suis capable d'estimer un profil, d'une part le profil de l'excitation laser, en bleu, d'autre part le profil des électrons, en jaune. Vous voyez que les électrons ont diffusé par rapport à la tache du laser, mais aussi un profil de température. Et donc je vois qu'il y a une zone ici où j'ai pas d'excitation laser, mais un gradient de température. Et si j'ai des particules avec un gradient de température, je m'attends à avoir un effet thermoélectrique qui va influencer le transport des particules. Donc on est capable, avec cette technique-là, d'estimer des coefficients de transport, et en particulier un coefficient Seebeck en bipolaire, d'un point de vue purement optique, sans mesure directe, en mesurant directement la température des électrons. C'est un cran plus loin par rapport au photovoltaïque, mais ça vous montre comment les outils conceptuels et les outils techniques qu'on a développés pour le PV permettent aussi de rattacher à d'autres thématiques scientifiques. Je termine mon parcours, je vous l'ai dit, en retournant complètement la focale et en m'intéressant maintenant non plus à la capacité du système à absorber des photons pour sortir des électrons, mais à émettre des électrons quand je rentre, à émettre des photons quand je rentre des électrons à l'intérieur. Je reviens sur le petit schéma qui nous a servi de fil rouge tout au long de cette présentation. Un dispositif photovoltaïque, je mets de la lumière, ça génère un déséquilibre de population, donc une séparation de niveau de Fermi, et normalement une tension aux bornes de l'absorbeur. On a dit que la tension était au mieux donnée par la séparation des niveaux de Fermi. La tension aux bornes de l'absorbeur peut être un peu plus faible, en particulier s'il y a un problème de transport. Comment est-ce que j'arrive à relier le splitting des niveaux de Fermi dans l'absorbeur à ce qui se passe aux bornes du dispositif? Pour essayer de répondre à cette question, je propose une question, à cette question que vous n'avez pas posée mais que je me pose, à cette question une question. Qu'est-ce qui se passe si on fait les choses dans le sens inverse? Si je prends un dispositif, que je lui applique une tension aux bornes, et que je m'intéresse à la façon dont cette tension aux bornes va générer une séparation des niveaux de Fermi dans l'absorbeur. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai une séparation des niveaux de Fermi dans l'absorbeur? Je vais avoir émission de luminescence. Ce que je suis en train de vous présenter là, c'est un système où j'applique une tension et j'obtiens de la lumière. Autrement dit, c'est une diode électroluminescente. Et ça, je vous propose de vous le montrer en image. Je vous montre ici un zoom sur l'échantillon parce que ça va être un peu plus difficile à voir. C'est plusieurs cellules solaires qui sont connectées. Moi, je vais jouer principalement sur cette cellule-là. Et je vais essayer, elle aussi, de vous la montrer en direct. Hop, alors, là, c'est la partie technique de l'expérience puisqu'il faut réussir à déplacer la caméra et à refaire la mise au point. Normalement, ça devrait aller. Ça ira comme ça. Donc, vous voyez ici la cellule solaire dont je vous parlais. Je vais vous montrer que c'est une cellule solaire. Si je branche un voltmètre à ces bornes, vous voyez que la lumière ambiante est suffisante pour générer une tension. Si je cache la lumière, la tension baisse. Si je mets plus de lumière, la tension augmente. C'est une cellule solaire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le voltmètre et à la place, je vais mettre une pile. Rien dans la manche. Merci. Donc, vous voyez ici l'équivalence entre une cellule solaire et une diode électroluminescente. C'est essentiellement le même dispositif, utilisé dans un sens ou dans l'autre, et fondamentalement, pas optimisé pour la même application. Mais la physique est au fond la même. On n'est jamais trop prudent. Je vais sur cette ouverture ici vous partager un résultat que je trouve assez élégant, qui est un théorème qui s'appelle un théorème de réciprocité. C'est donc un théorème qui fait le lien formel entre deux situations. Une situation où on s'intéresse à générer les électrons par la lumière et à réussir à collecter ces électrons, et d'autre part, une situation où on injecte des électrons et où on essaye d'émettre des photons. Le théorème prend cette forme-là. Si je m'intéresse à la lumière qui est émise par cette situation ici, oublions le fait que j'ai mis une tension aux bornes, mon dispositif est donné par une séparation des niveaux de Fermi, et donc je suis exactement en droit d'utiliser exactement les mêmes règles que celles que j'ai dérivées plus tôt. La lumière émise par ce système-là va être donnée par la loi de Planck généralisée, exactement comme on l'a montré plus tôt. La loi de Planck généralisée, elle dépend de l'absorptivité, autrement dit de propriétés purement optiques du matériau, et du splitting des niveaux de Fermi dans l'absorbeur. Le théorème de réciprocité vous permet de réexprimer les choses en fonction de l'efficacité quantique du dispositif, l'efficacité quantique étant définie ici comme le nombre d'électrons que j'arrive à sortir du dispositif pour chaque photon que je fais rentrer dedans. Donc cette efficacité quantique ici, elle dépend non seulement de propriétés optiques, il faut que j'arrive à absorber les photons, mais aussi de propriétés électriques. Il faut que les électrons que j'ai générés puissent sortir. Donc ce EQE ici mélange de l'optique et de l'électronique, et j'exprime ici les choses non plus en fonction du splitting à l'intérieur, mais de la tension appliquée aux bornes. Autrement dit, cette loi vous explique comment vous passez de ce qui se passe sur les côtés à ce qui se passe au centre, en faisant changer le préfacteur qui n'est plus simplement optique, mais qui inclut ici une efficacité de collecte. Et donc c'est un résultat que je trouve assez élégant, d'abord dans la généralisation de cette forme d'une loi de Planck avec un potentiel chimique, et qui permet de relier ce qui se passe aux bornes, ce qui se passe aux limites du système, et ce qui se passe à l'intérieur. Je vais terminer cet exposé en vous montrant deux applications de cette technique. Voilà ici des résultats obtenus pendant la thèse d'Amaury Delamar, qui est dans la salle, où on étudie un échantillon de CIGS, c'est-à-dire un alliage à base de cuivre, d'indium, de gallium et de sélénure. On l'étudie d'une part en photoluminescence, donc on éclaire, on regarde la lumière qui est émise, et d'autre part en électroluminescence, on applique une tension et on regarde la lumière qui est émise. Et ce qui va nous intéresser ici, vous voyez que ces deux formules qui sont très proches, la photolume ne dépend que de l'absorptivité et du potentiel chimique dans l'absorbeur, l'électrolume dépend de l'efficacité quantique et de la tension appliquée aux bornes. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la corrélation entre ces deux mesures. Quelles sont les zones qui sont à la fois bonnes du point de vue brillante, du point de vue de la photoluminescence et du point de vue de l'électroluminescence? Quelles sont celles qui sont mauvaises dans les deux cas? Quelles sont celles qui sont bonnes du point de vue de la photolume, mais mauvaises du point de vue de l'électrolyte. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ces situations ? Si vous avez à la fois une bonne photoluminescence et une bonne électroluminescence, ça veut dire que le matériau est de bonne qualité. Bonne luminescence, ça veut dire que quand vous envoyez des photons, vous arrivez à créer une population en équilibre. Ça veut dire qu'il y a suffisamment peu de recombinaisons pour que le déséquilibre soit significatif. Donc c'est un matériau de bonne qualité. Il n'y a pas des défauts qui induisent des recombinaisons accélérées. Par ailleurs, si vous avez une bonne électroluminescence, ça veut dire que vous arrivez à faire passer les électrons des contacts vers le centre, et donc dans l'autre sens, vous arriverez efficacement à sortir les électrons de là où ils ont été générés, jusque dans les contacts. Quand vous avez une mauvaise luminescence, ça veut dire a priori que votre matériau a des défauts. Donc quand vous absorbez de la lumière, les électrons recombinent très vite, et vous n'avez pas la possibilité de voir une émission de lumière. À ce moment-là, c'est difficile de dire grand-chose sur la collecte, mais vous pouvez dire que le matériau est dégradé. Si vous avez une bonne électrolume, et une bonne photolume et une mauvaise électroluminescence, ça veut dire que le matériau est bon, mais que les électrons n'arrivent pas à bouger de là où vous les avez mis. Vous les créez, ils sont excités, mais vous ne pouvez pas les sortir. Ils vont finir par se recombiner en émettant de la lumière, mais du point de vue photovoltaïque, ça ne marchera pas bien. Donc le couplage entre électroluminescence et photoluminescence vous permet de dire des choses à la fois sur la qualité du matériau en lui-même, mais aussi du dispositif dans sa capacité à extraire les électrons que vous allez photogénérer. Je termine avec l'application la plus subtile de l'électrolume que je pourrais vous montrer, qu'on pourrait appeler étude par électroluminescence des effets réversibles et irréversibles de contraintes mécaniques sur le taux de recombinaison non radiatif et l'efficacité de collecte de modules silicium commerciaux. Voilà à quoi ça ressemble dans la pratique. C'est une expérience qui a été faite au NREL. C'est ça, donc ce que vous voyez là, c'est un panneau solaire qu'on a branché sur un générateur, et donc un panneau solaire que vous branchez, il brille. C'est une diode. Alors, il brille au niveau de son gap. Dans le silicium, un EV, donc de l'infrarouge, vous ne le voyez pas avec les yeux, mais avec une caméra adaptée, vous percevez ce rayonnement. Et donc, pour étudier les contraintes mécaniques, on va appliquer des contraintes subtiles, qui consistent à marcher sur le panneau. Et donc, vous voyez des zones qui deviennent noires. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire. Et surtout, il ne faut pas sauter sur un panneau. Je vous avais prévenu de la subtilité de l'expérience. Ce qui est assez impressionnant avec cette manip, et si on applique ce que je vous ai dit précédemment, là c'est au moment où vous appliquez la contrainte, là c'est au moment où vous avez libéré la contrainte en sautant, la contrainte va revenir. Rappelez-vous Murphy. Vous voyez qu'il y a des endroits où, quand il y a des contraintes, le système ne brille plus, et quand on relâche la contrainte, le système recommence à briller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la contrainte n'a pas cassé le matériau, elle a empêché les électrons d'accéder à cette zone. Votre problème ici est essentiellement un problème de collecte, plus qu'un problème de recombinaison. Par contre, vous voyez qu'il y a des zones qui restent noires, contraintes ou pas contraintes, et ça, a priori, ça veut dire que soit c'est une zone qui est déconnectée de façon définitive, soit c'est que la contrainte a pu, en l'occurrence, vraiment endommager le matériau et créer des défauts. Mais donc ce lien entre collecte et luminescence permet vraiment de rentrer un peu dans le détail du diagnostic de qu'est-ce qui s'est passé sur un panneau. Ici, il s'est passé des choses préoccupantes. Voilà, ça termine ce tour d'horizon que j'avais envie de vous proposer de l'interaction lumière-matière pour le photovoltaïque. Si j'essaie de faire un résumé en images, je vous ai présenté l'interaction lumière-matière sous l'angle de la thermodynamique de la conversion. Et avec cette thermodynamique, on identifie ce que c'est que l'effet photovoltaïque, la création d'une tension liée à un déséquilibre de population, donc un système hors d'équilibre du fait de l'illumination qui est en mesure de produire un travail. On a identifié quatre fonctions fondamentales dont on se sert dans tous les dispositifs photovoltaïques, quelle que soit la zoologie des technologies. Absorber la lumière, garder les porteurs excités, leur permettre de se déplacer et le faire de façon sélective, qu'ils aillent dans un sens et pas dans un autre. Et puis on a établi la limite de conversion, limite de bilan détaillé si on veut le faire finement, ou limite de Triby-Schlin si on veut le faire sur un dos de serviette, qui vous dit qu'il y a un gap optimal, il est de l'ordre de 1 électronvolt et il vous permet un rendement de l'ordre de 30%. On a regardé la façon dont ce dispositif est en mesure d'émettre de la lumière. C'est une émission de lumière qui paraît un peu surprenante. C'est une loi de Planck pondérée par l'absorptivité et amplifiée par un potentiel chimique de radiation. Et cette radiation, elle est porteuse d'énormément d'informations sur le fonctionnement du dispositif, sur les propriétés des matériaux, mais aussi sur les fonctionnements du dispositif. Et le dispositif en lui-même, on l'attrape d'autant mieux qu'on prend un pas de recul. et qu'on fait des liens entre le photovoltaïque et d'autres applications optoélectroniques. En particulier, un panneau solaire, fondamentalement, c'est une diode. Une diode, c'est un panneau solaire. Si vous éclairez une diode, vous récupérez une tension à ses bornes. C'est exactement la même idée. Et ce sont des techniques qui... Je vous ai montré comment le photovoltaïque permettait d'attraper des considérations électriques à partir de thermodynamique. Et je crois que j'ai aussi essayé de vous montrer la façon dont des considérations assez fondamentales sur le développement de la luminescence peuvent être utilisées sur des applications beaucoup plus industrielles. Donc c'est vraiment des liens et des ponts permanents entre les domaines. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.